coq chante et le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Les 12, 13 et 14 décembre 2017, les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et des pêches des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont tenu une importante réunion à Libreville au Gabon. L'idée, c'est de discuter pendant ces trois jours pour trouver des méthodes et pour mobiliser des ressources devant permettre de développer le secteur agricole de manière concertée dans la sous-région. Le coq chante ne pouvait manquer un tel rendez-vous. Autant vous le dire tout de suite, jamais cette émission n'a reçu autant de ministres et d'excellences.
Mesdames et messieurs, excellences, monsieur le premier ministre chef du gouvernement de la République gabonaise, excellences, monsieur le ministre d'État, ministre congolais de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, messieurs les ministres de la CAC en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.
Pourquoi une telle rencontre? C'est l'avant-projet de déclaration de ce Conseil extraordinaire des ministres qui fournit la réponse. En dépit d'un potentiel considérable en termes de terres agricoles, de pluviométrie, de ressources en eau et d'autres moyens de production, en dépit d'une variété très étendue de produits agricoles, pastoraux et halieutiques, l'Afrique centrale continue d'importer massivement des produits agricoles et alimentaires. Il s'agit donc de desserrer cette dépendance vis-à-vis du marché international pour son approvisionnement. Surtout que cette situation accentue l'insécurité alimentaire dans la région et entraîne une forte prévalence de la malnutrition et de la pauvreté. Plus grave, l'exploitation pétrolière qui constitue le cœur des économies nationales de ces États est affectée par l'effondrement des cours des principaux produits de base. Et le discours d'ouverture de M. le Premier ministre de la République gabonaise ne dit pas autre chose.
Cette cérémonie se tient dans un contexte général de contraction des économies de notre zone.
On va résumer. Ça va mal dans le secteur de l'exploitation pétrolière. Pourquoi donc ne pas se tourner vers le secteur agricole, surtout qu'on a de vastes superficies de terres arables non encore mises en valeur, des rendements agricoles très faibles et des capacités très limitées pour ce qui concerne la transformation et la commercialisation. Cette action d'envergure régionale est placée sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, principal organisme d'intégration sous-régionale. Cette organisation internationale regroupe aujourd'hui 11 États membres. Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Sao Tomé et Principe, Rwanda. On a donc différents écosystèmes. Cela va de la savane à la façade maritime. Un réseau hydrographique comprenant le bassin du fleuve Congo est d'importantes façades maritimes, donc des zones propices à l'élevage, à l'agriculture, à l'agroforesterie, à la pêche et à la pisciculture. Difficile de concevoir qu'un tel ensemble se trouve contraint d'importer des ressources alimentaires. Au Gabon, l'agriculture est très peu développée. L'État a développé une réflexion stratégique dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent PSGE, dont un des piliers est le plan Gabon vert. Ensuite, il y a eu le projet Graines, ces Gabonaises de réalisation agricole et des initiatives nationales engagées, une initiative sur 5 ans lancée à la fin 2014. L'idée centrale, c'est d'ouvrir les portes aux investisseurs gabonais et étrangers pour exploiter 4 à 5 millions d'hectares de terres arables que compte le pays. Ainsi fait, 108 coopératives ont reçu une enveloppe financière d'1,8 milliard de francs CFA au titre de cette subvention. En dépit de ces initiatives, il reste des problèmes à résoudre pour une réelle émergence du secteur agricole. Yves Fernand Mafumbi est ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, en charge de la mise en œuvre du programme Graines.
Monsieur le ministre, vous avez écouté tout à l'heure, vous avez dit que cette rencontre intervient dans un contexte économique particulier pour les 11 États de la CAC.
Oui, nous le confirmons que le contexte particulier, c'est parce que les trois quarts des pays de la CEAC sont pays producteurs du pétrole. Nous pensons qu'aujourd'hui, au niveau de la sous-région, nous devons saisir le fait qu'il y ait une baisse drastique de ressources pétrolières comme étant une opportunité pour développer les secteurs moteurs de croissance. Et dans ces secteurs moteurs de croissance, vous avez effectivement l'agriculture, vous avez effectivement l'élevage et vous avez aussi la pêche qui sont aujourd'hui pour nous des éléments sur lesquels nous disposons d'un potentiel pour pouvoir, n'est-ce pas, aller vers la diversification de sources de croissance pour suppléer plus ou moins le pétrole. Voici pourquoi nous nous disons aussi aujourd'hui au Gabon que l'agriculture, c'est le nouveau pétrole du Gabon.
Monsieur le ministre, permettez-moi de voir si j'ai bien compris le mécanisme, c'est-à-dire il y a une crise au niveau du pétrole, baisse des liquidités des États, donc impact sur la sécurité alimentaire, oui. Ce qui vous oblige à voir ce qu'on faisait de mieux, c'est-à-dire l'agriculture.
Justement, aujourd'hui, nous devons aller vers une agriculture sensible à la nutrition. Cette agriculture sensible à la nutrition commande que nous puissions aller vers l'accompagnement des agriculteurs et leur proposer quelles sont alors et ou quelles sont les pratiques culturelles qui vont leur permettre de produire un aliment riche en micronutriments. La baisse de ressources ne doit pas être aujourd'hui analysée comme étant un élément qui doit entraîner une baisse de qualité alimentaire. Bien au contraire, il faudrait bien qu'on se dise comment revenir à une production des biens de consommation, donc des produits alimentaires de qualité.
Mais c'est ce que vous avez appelé des mesures concrètes et urgentes.
Oui, les mesures concrètes et urgentes dans la matière, c'est de dire qu'en tenant compte de la situation économique d'une part, mais en tenant compte aussi des changements climatiques aujourd'hui qui impactent la sous-région, parce qu'il faudrait aujourd'hui susciter les vocations et surtout démontrer à ces populations de la zone qu'on peut effectivement gagner notre vie à travers l'agriculture. Mais quelle agriculture ? Mais il faut aller vers une agriculture de business. Et là, nous pensons qu'il faut qu'on crée une nouvelle classe des agripreneurs. Des agripreneurs, parce que l'agriculture, c'est pas forcément celui. L'agriculteur, autant pour moi, c'est pas forcément celui qui agit dans la plantation, non. Mais comment nous identifions les différentes filières porteuses d'une part et couplées avec le développement des chaînes de valeur. Et là, nous arrivons à un véritable business. Et un businessman n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Un businessman, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Et s'il gagne de l'argent, il est fort possible que les gens s'investissent pour l'agriculture.
Donc un double défi, mobiliser les énergies, harmoniser tout cela au niveau de 11 États et mobiliser les finances, ce que vous appelez le business, je ne sais plus comment, meeting.
Oui, aujourd'hui, il faut mobiliser d'abord les énergies. Mobiliser l'énergie, pourquoi ? On a juste besoin d'abord de réfléchir, d'avoir une vision communautaire, d'où aujourd'hui le programme agricole commun au niveau de la sous-région. Ce programme commun, aujourd'hui au niveau de l'agriculture, devrait nous amener à définir clairement le programme régional d'investissement dans le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'autre part, mais aussi quelles sont alors les ressources. Et aujourd'hui, ce business meeting va nous amener à ce que les partenaires techniques et financiers qui sont là puissent s'engager à accompagner la sous-région. Mais les partenaires techniques et financiers ne sont pas les seuls. Mais il faut que nous identifions filière par filière quels sont les privés capables d'accompagner le mouvement dans la zone. Mais aussi, quel est le cadre des affaires que nous proposons de manière attractive? Pourquoi quelqu'un viendrait-il dans notre zone CEAC? Pourquoi il n'irait pas dans la zone CEDEAO? Donc là aussi, c'est la capacité que les États doivent avoir de pouvoir offrir un environnement des affaires propice au développement des secteurs que je venais d'évoquer. Donc une fois de plus, ce business meeting, nous comptons beaucoup, mais nous pensons que les choses concrètes devraient sortir de ce business meeting et nous attendons en fait la déclaration dite de Libreville qui devrait engager plus ou moins mes pairs et mes collègues pour que les chefs d'État et de gouvernement puissent s'en saisir et faire effectivement de l'agriculture le véritable moteur de la croissance économique de la sous-région, mais surtout un véritable levier de l'intégration sous-régionale. Je vous remercie.
Ah, c'est moi qui vous remercie parce que je sais que vous êtes attendu, mais vous avez quand même accordé ces instants. Je vous remercie.
Merci.
Javi, avec cette danse-là, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise encore?
Après le Gabon, le Congo-Brazzaville. Malgré 10 millions d'hectares de terres fertiles, seulement 2% sont cultivés.
les activités agricoles et forestières s'appuient à la fois sur les cultures de rente, c'est-à-dire canne à sucre, cacao, café et EVA, et des cultures vivrières, bananes, plantains, maïs, manioc. Le pays importe même la majorité de ses denrées agricoles. La volaille provient d'Europe, la viande du Tchad, les légumes de RDC et du Cameroun par exemple. Henri Diombo, écrivain, homme politique, est ministre d'État en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.
Nous sommes réunis ici en conseil des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour délibérer sur les questions relatives aux transformations de l'agriculture en Afrique centrale pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la sous-région avec les enjeux actuels et les nombreux défis à relever. Nous avons dû aborder les questions essentielles de cette réunion.
Alors, ces 11 pays, comment on harmonise tout ça?
Nous avons l'avantage de souffrir des mêmes problèmes. Et comme par hasard, il y a une convergence de vues, de politiques dans nos pays, qu'il s'agisse de la promotion de l'investissement, de la recherche du marché, de la transformation, disons, la modernisation de l'agriculture, l'assistance aux petits et moyens producteurs et la promotion de l'agro-industrie. Nous avons eu les mêmes points de vue, ce qui a facilité nos délibérations.
Alors, quelle est la situation dans votre pays, le Congo, la situation de l'agriculture, j'entends?
Bon, nous produisons peu et n'arrivons donc pas à couvrir nos besoins alimentaires. Et c'est pourquoi nous importons pour de grandes sommes de denrées alimentaires de l'extérieur. Et bien sûr, avec la situation économique actuelle, le gouvernement a décidé d'améliorer la production nationale, d'augmenter l'offre locale pour être moins dépendant, pour améliorer les revenus des producteurs, mais aussi bâtir des bases d'une agriculture exportatrice et compétitive.
Une telle politique de développement du secteur agricole suppose de nombreux préalables. La recherche de financement, l'harmonisation des législations, le développement de la recherche agronomique, la promotion de la formation et l'encadrement technique des producteurs, la transformation et la valorisation des produits, la commercialisation.
Les rendements agricoles sont assez faibles dans la sous-région en général, mais au Congo en particulier. Et il va falloir donc que la recherche agronomique se soit assistée pour pouvoir changer la situation. Il faut que le matériel biologique qui est utilisé dans le pays soit de bonne qualité. Mais à cela, il faut ajouter aussi que l'agriculture pluviale ne donne pas des rendements satisfaisants et qu'il va falloir promouvoir l'irrigation dans les bassins de production. Il va falloir promouvoir également l'électrification de ces bassins parce que sans énergie, on ne peut pas transformer la production, on ne peut pas bien la conserver. Et il en résulte bien sûr des pertes énormes qui s'expriment en termes de déchets. Et donc on manque à gagner une perte importante de valeur ajoutée.
En vous écoutant, je comprends mieux l'engouement qui se passe autour de cette conférence depuis ces 3 jours.
Ben oui, nous regardons dans la même direction parce que nous sommes menacés par les mêmes phénomènes.
Je vous remercie.
L'agriculture est la principale occupation pour 56% de la population active au Cameroun en 2003, bien que seulement environ 15,4% des terres soient arables. Le pays est divisé en deux grands ensembles climatiques qui vont de la savane au nord à la forêt au sud et une longue façade maritime à l'ouest, ce qui fait dire qu'on produit pratiquement tout au Cameroun. Toutefois, des problèmes demeurent qui handicapent un réel essor de ce secteur d'activité. Est-ce ce qui explique la présence active du ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement Rural, Henri Ebe Ayissi?
Oui, je suis là au titre de cette réunion, ce conseil des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la zone Afrique centrale, configuration CEAC. Précisément parce que au niveau de l'Afrique centrale, nous devons nous mettre ensemble pour faire face aux défis communs. Nous avons, au niveau de cette zone à laquelle appartient le Cameroun, à faire face à la nécessité de mobiliser l'agriculture, le secteur agricole au sens large, pour précisément exploiter le potentiel dans leur double optique de satisfaire les besoins nationaux, la consommation nationale, développer l'offre dans le secteur agricole en rapport avec les besoins nationaux d'une part et surtout pour permettre, en raison du potentiel du Cameroun, de satisfaire la demande et en même temps faire en sorte que, au plan économique, nous puissions offrir des emplois, parce que c'est un gisement d'emplois que le secteur agricole. La réunion que nous avons aujourd'hui offre l'occasion de montrer, tout au moins de partager les expériences et surtout articuler, prendre des dispositions pour la mise en œuvre de ce que nous appelons les plans nationaux d'investissement agricole, monter ce programme régional dans ce secteur à la suite de la déclaration des chefs d'État des engagements pris à Malabo pour faire en sorte que l'agriculture joue son rôle moteur en investissant beaucoup, en investissant à la hauteur des besoins dans ce domaine-là.
Gisement d'emploi, ça veut dire fixer la population rurale chez elle, faire en sorte que les jeunes puissent travailler et vivre au pays.
C'est précisément cela le défi. Faire en sorte que non seulement on contre le phénomène de l'exode rural, c'est-à-dire de cet afflux, de cette migration intérieure vers les villes que nous connaissons, où les jeunes se retrouvent dans ces zones urbaines sans emploi, mais surtout en les fixant, en développant les zones rurales, en créant de l'activité dans ces zones rurales à travers l'agriculture au sens large, c'est-à-dire avec l'élevage, la pisciculture notamment, la production, oui, mais la pré-production. Ce que la valeur ajoutée que l'on obtient au-delà de la production, les emballages, les conservations, les transformations. Au Cameroun, nous avons une stratégie, un document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et précisément, il s'agit de faire en sorte qu'au niveau de l'économie nationale, le secteur agricole joue son rôle, mais non seulement qu'il a, nous puissions engranger à travers le commerce des produits agricoles et la transformation, que nous puissions engranger des devises, mais que nous offrions également des emplois à ces diplômés, à ces jeunes dans le secteur rural. C'est ce défi que nous, au niveau national, nous sommes amenés à relever, mais nous travaillons pour que, à l'exemple d'autres regroupements, notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale surmonte les handicaps qu'elle a eu à ce jour, accélère le rythme de l'intégration sous-régionale. Les ministres de la culture, des pêches et de la pisciculture, de la pêche en l'occurrence, nous sommes réunis pour donner corps, pour aller dans cette direction. C'est ce défi-là que nous sommes amenés à relever. Nous sommes ensemble mobilisés pour traduire en acte cette volonté politique qui existe.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez d'exprimer ici au nom du Cameroun, à travers cette présence, notre engagement en commun au service de la CIA en l'occurrence.
Le Tchad possède d'importantes ressources en terre, 39,9 millions d'hectares de terres cultivables et en eau composée de ressources renouvelables et d'importantes ressources fossiles souterraines. Il dispose en outre de conditions agroclimatiques favorables à une diversité de cultures soudaniennes et sahéliennes, c'est-à-dire coton, graines oléagineuses, céréales et tubercules, fruits et légumes. Son cheptel, toutes races confondues, est évalué à plus de 94 millions de têtes. En résumé, on peut dire que le sous-secteur agricole du Tchad est relativement peu performant, mais possède d'importantes marges de développement pour peu que les nombreuses contraintes d'ordre technique, financier et institutionnel auxquelles font face les exploitations familiales qui assurent l'essentiel de la production agricole trouvent des solutions idoines. Asseïd Gama Silek est ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles de la République du Tchad. Nous allons parler de votre pays, le Tchad. Vous avez l'élevage, vous avez l'agriculture, vous avez le lac Tchad, c'est-à-dire de la pêche. Vous avez toutes les potentialités chez vous.
J'ai eu le plaisir de participer à cette rencontre pour me rendre compte que, en réalité, nous pouvons être le grenier pour la région. En ce qui concerne les produits alimentaires, nous pouvons être la source d'approvisionnement essentiellement en matière de produits animaux. Et je suis surpris de constater que c'est des milliards qui sortent de notre région pour acheter de la viande, par exemple, ailleurs, au Brésil ou en Argentine, alors que nous pouvons largement, très largement suffire pour voir cette région en produits animaux. Et donc, nous avons un potentiel extrêmement important sur tout le plan que vous venez d'évoquer, sur le plan animal, sur le plan de l'agriculture végétale, sur le plan de la pêche, qui ne demande qu'à être exploité. Malheureusement, la situation que connaît mon pays depuis l'indépendance a fait qu'en réalité, c'est seulement maintenant qu'on se concentre un peu plus sur l'activité de développement du secteur rural.
Il y a d'autres atouts aussi, parce que du point de vue de la recherche agronomique, votre pays peut faire figure de locomotive en Afrique centrale.
Oui, c'est vrai, sur le plan de la recherche agronomique. Nous étions, je ne pense pas que nous le soyons encore maintenant, mais nous cherchons à rattraper cette situation pour être la locomotive. Vous savez, pour nous au Tchad, le problème de développement agricole, en dehors de son intérêt interne, pour notre pays, pour nos pays, en ce qui concerne la sécurité alimentaire à assurer, en ce qui concerne les richesses à attirer pour l'ensemble de la région, il y a des enjeux qui sont d'actualité concernant l'immigration. Vous savez, l'Afrique centrale n'est pas un pays d'immigration, contrairement à l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas envie de le devenir. Et pour éviter qu'on ne le devienne, il va falloir qu'on donne des perspectives à nos jeunes, qu'on leur propose de l'emploi. Et l'emploi dans nos pays, ça ne peut être que l'emploi dans le monde rural. Des emplois assurés au niveau du monde rural, c'est 80% des jeunes que vous soustrayez aux tentatives d'être le terreau sur lequel le terrorisme recrute. Et donc c'est un enjeu, en dehors de l'aspect développement, c'est aussi un enjeu de sécurité pour nos pays. Et c'est en cela qu'il mérite qu'on se mette ensemble pour essayer de pouvoir assurer ce développement dans nos régions.
Il y a aussi l'enjeu nutritionnel.
Évidemment, il y a l'enjeu nutritionnel, il est extrêmement important. Vous savez, les dernières analyses démontrent qu'en réalité, les 1000 premiers jours pour un enfant sont extrêmement importants pour le développement de ses facultés cognitives, de son intelligence, etc. Et donc, c'est des enjeux extrêmement importants et je pense que le but de la rencontre, c'est de voir le développement de l'agriculture dans notre pays, non pas seulement en quantité, mais en qualité pour pouvoir garantir à nos populations une alimentation saine et complète.
Je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Notre dernier intervenant est Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la Côte d'Ivoire. Il est à Libreville au titre de la FAO Région Afrique.
Je suis ici à l'invitation de mon collègue du Gabon. Ils ont eu une réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Et à ma qualité de président de la 29e conférence des ministres de l'Agriculture pour la FAO Région Afrique, je suis venu d'abord m'assurer que les décisions que nous avons eu à prendre en 2016 à Abidjan, m'assurer de leur mise en œuvre au niveau de l'Afrique centrale. Et ensuite, profiter de la réunion de la présence des ministres pour partager avec eux l'expérience de la CEDEAO en matière de développement du secteur agricole. J'ai noté l'intérêt des États d'Afrique centrale de donner une priorité à côté du pétrole au secteur agricole. Et j'ai fait observer que c'est une zone qui regorge d'énormes potentialités au niveau agricole en matière de ressources naturelles. D'ailleurs, les statistiques montrent clairement que 44% des ressources naturelles du continent sont recensées au niveau de l'Afrique centrale. On va dire que c'est un potentiel grenier du continent.
La Côte d'Ivoire, quand même, au niveau agricole, c'est la première puissance, je dirais, en Afrique de l'Ouest. L'expérience, vous l'avez maintenant. On sait ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire.
Exactement. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire que vous citez, au lendemain des indépendances, nous avions hérité de 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous en comptons à peu près 3 millions. Donc, nous ne voulons pas que 85% du couvert forestier ici, dans cette zone-là, soit entamé par un développement de l'agriculture comme nous l'avons pu le faire à notre niveau. Nous pensons qu'il y a les moyens de développer l'agriculture tout en préservant les ressources naturelles, notamment la forêt.
Alors, quels sont ces moyens ?
Oui, aujourd'hui, on développe des nouvelles techniques d'agroforesterie. C'est ce que nous faisons chez nous. Vous savez que la Côte d'Ivoire a pris l'engagement de recouvrir son couvert forestier en faisant de l'agriculture avec zéro déforestation, en faisant une agriculture qui soit compatible avec la forêt. Et je pense que ce sont de nouvelles techniques dont peut bénéficier l'Afrique centrale, y compris aussi la gestion des ressources en eau. On a aujourd'hui, ici dans cet espace, près de 1700 milliards de mètres cubes d'eau. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est considérable. Et comme je disais, ça fait 44% des ressources en eau sur le continent qui sont recensées ici. Rien que la RDC, c'est plus de la moitié de ces ressources au niveau de la zone de l'Afrique centrale. Il faut en avoir une gestion rationnelle et investir de manière à ce que ces ressources soient durables.
Moi, j'étais curieux quand j'ai lu l'intitulé de cette conférence des ministres de la CEAC, l'agriculture comme vecteur d'intégration sous-régionale. Ça ne pouvait qu'être le cas, c'est évident.
Vous avez raison, moi je trouve que le thème est choisi à propos parce que vous savez qu'il y a certaines zones de cette région qui sont beaucoup plus propices à la production halieutique, à la production végétale et d'autres à la production animale. Il faut qu'il y ait une connexion entre toutes ces zones de manière à ce que les zones de production puissent servir les zones qui ne produisent pas. Et je me réjouis que les ministres aient dans leur agenda de mettre en place des projets intégrateurs, des projets structurants.
Mais c'est tout à fait normal parce qu'une zone peut être une zone de production dans un pays donné, alors que les consommateurs sont ailleurs.
Si vous prenez le cas de l'Afrique centrale, par exemple, quand le recensement du cheptel tchadien a été réalisé, on s'est rendu compte qu'il est trois fois plus important que ce qu'on estimait. Il est près de 94 millions de têtes. Et pendant le même temps, le Gabon est importateur net de viande d'Argentine. Donc je crois que ce sont des paradoxes qu'il faut corriger. Et c'est tout à fait faisable. Il suffit de doter le Tchad d'infrastructures adéquates et de faire en sorte qu'il y ait un réseau de communication entre le Tchad et les autres pays demandeurs de viande dans la zone.
Je vous remercie, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes attendu, mais vous nous avez accordé ce temps. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Nous étions à Libreville au Gabon, où s'est tenu le conseil extraordinaire des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage et des pêches des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale les 12, 13 et 14 décembre dernier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayuba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, le coqchante. Avant de se quitter, ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.